Hébreux 7, verset 25. Voilà pourquoi il, Jésus-Christ, est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. Chers amis, la première chose que je remarque dans ce verset, c'est que Jésus-Christ vit toujours. Et la deuxième chose, c'est que Jésus intercède pour nous personnellement. Jacques Bouchold, l'un de mes professeurs à la faculté de théologie, il dit ceci quant à nos prières. Aujourd'hui, lorsque tu pries Dieu, c'est un homme qui t'écoute. Aujourd'hui, lorsque tu pries Dieu, c'est un homme qui t'écoute. Quand j'ai entendu cette phrase pour la première fois, je me suis dit deux choses. D'abord, elle est pas mal. Et puis, j'ai pris un coup quand même. Je me suis rappelé que Jésus m'écoute réellement. Il m'écoute comme vous m'écoutez maintenant, comme un homme, face à face. Il a envie de connaître ma voix, nos voix. Mais en relisant ce verset hébreu, j'ai réalisé que non seulement Jésus-Christ m'écoute en tant qu'homme, mais il prie pour moi en tant qu'homme. Je ne sais pas si vous réalisez, il y a un homme qui prie pour toi. Quand nous n'arrivons pas à prier, quand nous avons l'impression que personne ne prie pour nous, quand nous pensons que Dieu ne nous écoute pas, Jésus est en train de prier pour nous. Jésus est homme, certes, mais tout en étant homme, il est aussi Dieu. Ainsi, il peut être notre seul médiateur entre Dieu le Père et nous. C'est par son sacrifice à la croix que nous pouvons accéder à une relation avec ce Père. Lorsque nous prions Dieu le Père au nom de Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit. J'aimerais parler à celui ou celle aujourd'hui qui se retrouve dans cette situation où on a l'impression qu'on ne prie pas pour toi ou qu'on n'arrive pas à prier soi-même. J'aimerais te dire que Jésus connaît ton cœur et sait ce que tu traverses et il prie pour toi mieux que nous pouvons prier pour toi. Ce n'est pas pour vous dire que nous ne devons pas prier les uns les autres, bien le contraire. Mais c'est le premier aspect de la vie communautaire. Lorsque nous prions, ou lorsque nous n'arrivons pas à prier, il y a un homme qui nous écoute et un homme qui prie pour nous. Et son nom est Jésus. Et même quand nous pensons que nous sommes seuls au monde, Dieu nous donne sa propre petite micro-communauté entre lui et nous. Il est constamment en prière pour nous. Mais la prière étant une affaire avec Jésus, elle est aussi une affaire communautaire au sens ecclésial. Si Jésus prie pour les membres de sa famille, alors nous aussi, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. La prière, une affaire communautaire et désintéressée. L'apôtre Paul écrit ceci dans sa lettre aux Colossiens, et si vous voulez, c'est Colossiens 1, verset 9 et 4, verset 12. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et 4, verset 12. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur de Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Dans le premier verset, on voit le jour où nous l'avons appris. Paul ne connaît pas l'église de Colosse. C'est Épaphras qui l'a fondée. Et Paul ne l'a jamais visitée en vrai. Et pourtant, depuis le jour où il a appris qu'il y avait une église qui s'est formée à Colosse, lui et ses compatriotes n'ont jamais arrêté de prier pour cette église. De plus, lorsqu'il écrit sa lettre, Paul est en prison. Je ne sais pas si vous voyez comme on écrit les emails. On commence toujours avec un objet. J'imagine que si Paul devait vivre aujourd'hui, l'apôtre Paul, qu'il pourrait écrire dans l'objet de son email « Urgent, besoin de prière, j'ai besoin de prière, je suis en prison. » Peut-être que ça ne serait pas aussi long. Mais j'imagine dans son email, il pourrait écrire ça dans l'objet. Et pourtant, malgré la souffrance qu'il traversait, ses prières étaient désintéressées. Non pas tournées vers lui, mais vers les besoins des autres. Et je pense que l'exemple de Paul et ses collaborateurs nous montre l'importance de la prière pour l'Église avec un grand E, l'Église universelle. Lorsque nous prions, nos prières n'ont pas toujours besoin d'être pour nos communautés ou pour soi-même. Et je pense typiquement à il y a quelques semaines quand nous avons décidé de prier pour l'Église persécutée. Il y a des frères et des sœurs dans le monde qui souffrent aussi et certains qui ne souffrent pas. Et pourtant, on peut prier pour eux. Je pense aussi à Annick. Nous avons prié pour Annick il y a quelques semaines aussi lorsqu'elle est revenue du Tchad, mais aussi avant qu'elle est partie. On a prié pour elle, pour l'œuvre qu'elle ferait au Tchad et pour les gens qui allaient l'entourer. C'est ça la vie, la prière communautaire désintéressée. Nous prions pour vous. Ce sont les mots de l'apôtre Paul. Il avait le souci de ne pas laisser l'église de Colosse tout seul dans leur petite boule, dans leur église. Il a mis à l'écrit sa prière pour à la fois les encourager et à la fois les rappeler qu'ils sont accompagnés spirituellement. Et cela rejoint notre premier point. Si nous prions pour des personnes, cela vaut le coup de les tenir au courant parfois. Un simple message « Je prie pour toi » ou « Je viens de prier pour toi » peut faire basculer quelqu'un de l'isolement à l'appartenance à la famille de Dieu. Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez ferme. La prière ici est comparée aux armes qu'on utilise jusqu'à ce que le combat soit remporté. Et dans le mot de Paul, afin que vous teniez ferme ou afin que vous soyez parfait. Le même mot en grec désigne les deux termes, afin que vous teniez ferme ou afin que vous soyez parfait. Les prières des Épaphras ne vont donc pas cesser rapidement. Personne n'est parfait. On a tous un chemin à faire jusqu'à ce qu'on tienne ferme. Et les Colossiens pouvaient prendre ces prières comme un encouragement, car celui qui a aidé à fonder l'Église, celui qui leur a partagé la bonne nouvelle, continue de prier pour eux. Est-ce que nous aussi, nous pouvons commencer ou continuer de prier pour les uns les autres afin que nous aussi, nous arrivions à tenir ferme dans notre foi face à tout ce qui peut nous bousculer et afin que, de jour en jour, nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on le fait? Que le Saint-Esprit nous donne cette envie de prier sans cesse jusqu'à ce que Jésus revienne. Je vous demande, est-ce que vous le faites, mais je pense qu'il faut que je sois honnête. Pour ma part, je passe par des périodes où je prie plus que d'autres. Et de temps en temps, je pense particulièrement à ma grande sœur qui n'est pas dans la foi. Je prie pour elle. Et parfois, je prie pour elle avec des larmes. Et puis, il arrive que je ne prie pas pour elle pendant des mois. Peut-être cela vous arrive aussi. Ma prière, c'est que le Seigneur nous donne ce feu qui brûle en nous, qui a envie de voir les vies transformées et qui nous permet de prier comme Épaphras jusqu'au bout. Certes, Jésus nous invite à prier pour les uns les autres et je trouve que le Notre Père est l'exemple parfait. Ce n'est pas appelé le « mon Père ». Je ne prie pas Dieu, mon Père au ciel, donne-moi le pain dont j'ai besoin et pardonne-moi comme je me suis pardonné moi-même. Non, nous sommes appelés à prier en communion avec nos frères et sœurs pour à la fois remercier Dieu ensemble, mais aussi pour lui adresser nos sujets de prière les uns avec les autres. Et cela m'emmène à mon troisième point. Et peut-être vous réalisez, ça va vite aujourd'hui, hein, la prédication. Vous allez voir. L'exemple de l'apôtre Paul nous montre que si nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, nous sommes également invités à partager nos sujets de prière les uns avec les autres. À la fin de sa lettre aux Colossiens, donc vous pouvez l'ouvrir encore, au chapitre 4, versets 2 à 4, Paul fait part de ses propres sujets de prière. Donc vous voyez, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais je trouve que c'est intéressant. Paul, d'abord, au début de sa lettre aux Colossiens, il dit « Nous prions pour vous ». Ses prières sont désintéressées. Il est d'abord en train de prier pour les uns les autres, mais à la fin, il revient et dit « Priez pour moi ». Je lis les versets 2 à 4 du chapitre 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Priez également pour moi et pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, l'évangile de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et en parler clairement comme je le dois. Françoise Caron a prêché la semaine dernière et à un moment dans sa prédication, elle a parlé d'une période de sa vie où elle allait à l'église, mais elle n'a fait que pleurer. Et si je me souviens, cette période a duré à peu près un an. Elle avait quelque chose sur le cœur. Elle avait un sujet super, méga lourd dans le cœur. Et au lieu d'aller à l'église avec un masque, comme si tout allait bien, elle s'assied derrière et elle a fondu en larmes de semaine à semaine. Elle n'avait pas besoin qu'un frère ou une sœur vienne la voir de manière bien gentille, mais aussi bien maladroite. « Ça va? Tu vas bien? Je peux prier pour toi? Je peux imposer les mains? » Mais elle avait besoin de la famille de Dieu, la famille de Dieu qui l'entoure et prend soin d'elle. Elle s'est rendue vulnérable pour que l'Église puisse prier pour elle, même si ce n'était pas lors du culte. Et je pense que l'exemple de l'apôtre Paul nous montre cela aussi. Paul ne connaît pas les gens personnellement dans l'Église de Colosse. Et pourtant, il a partagé ses sujets de prière qui le tenaient à cœur. Alors que Paul était un apôtre, un grand apôtre, parfois, je pense à Paul et je me dis il devait être assez imposant. Mais alors qu'il était un apôtre, l'un des fondateurs de l'Église, il s'est abaissé, il a laissé son orgueil de côté et il a exprimé avec humilité ses besoins de prière. À combien plus forte raison, nous, en tant que communauté, nous pouvons partager nos sujets de prière les uns avec les autres. L'exemple de Françoise Caron m'a parlé vraiment fortement. Je me demandais, et j'osais remettre en question, si tout le monde dans notre assemblée se sentrait libre de venir au culte sans son masque. Et je vous pose la question ce matin. Est-ce que tu peux venir au culte sans ton masque? Sinon, qu'est-ce qui te freine? Si notre assemblée ne nous permet pas de venir au culte sans nos masques, est-ce que nous n'avons pas loupé une partie essentielle de l'Évangile? Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Pour moi, dans ce verset, je comprends une clé de lecture pour notre Évangile. Je peux venir auprès de Dieu tel que je suis. Et je crois que l'Église de Jésus-Christ ne devrait jamais être une barrière. Le but n'est pas de partager tous nos sujets de prière, de crier sur les trois comment on va, de partager les parties les plus sensibles et intimes de nos vies. Mais il me semble que l'Église est appelée à être un lieu d'accueil. Où nous pouvons partager l'état de nos cœurs librement, sans avoir peur que quelqu'un va venir nous juger ou nous exclure. Dans le dernier verset de Colossiens, donc chapitre 4, verset 18, Paul leur dit « Souvenez-vous de mes chaînes » ou dans d'autres versions, il dit « N'oubliez pas que je suis en prison ». Paul lui-même utilise des mots qui montrent combien sa situation de vie l'affecte. Souvenez-vous, n'oubliez pas. C'est une injonction, c'est presque un cri de son cœur qui offrait aux Colossiens une occasion de prier pour lui. Est-ce que nous aussi, nous arrivons à faire partie, à faire part de nos sujets de prière, à crier quand nous avons besoin? Je vous ai dit que la prédication était courte et j'arrive à ma conclusion. Le Seigneur est bon envers nous. Si nous n'arrivons pas à prier, il prie pour nous. Il nous a donné une communauté, des frères et des sœurs pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Et cette communauté est aussi une occasion de recevoir la prière des uns des autres. Que le Saint-Esprit nous rende donc humbles, qu'il nous enlève notre peur et qu'il enlève les barrières, que ce soit les barrières dans nos propres vies ou dans cette Église, qui nous empêchent de demander de la prière. Que le Saint-Esprit nous convainc de l'importance d'une relation avec Dieu par la prière. Et qu'il rende notre communauté un lieu de ressources où nous pouvons trouver des personnes qui peuvent prier pour nous quand nous n'arrivons plus. Je rajoute un petit surplus. Avec deux frères de l'Institut biblique de Nogent, on n'a pas arrêté de prier les uns pour les autres. On a une occasion toutes les semaines à se voir sur WhatsApp. C'est pas super, hein? Ce serait mieux en live. Mais c'est une occasion de partager tout ce qui se passe dans notre vie. Que ce soit les tentations, que ce soit les difficultés, les souffrances. Et on nous a vraiment ancré en nous, pendant que j'étais à l'école de théologie, le besoin d'avoir des personnes de prière avec qui nous pouvons tout partager. Et je pense que ce n'est pas différent pour l'Église. Je disais dans notre groupe de maison cette semaine, ma volonté, c'est que notre groupe de maison puisse partager tout ce que nous vivons. sans avoir peur du jugement, sans aussi être gêné. Mais il y a aussi parfois des sujets que nous n'arrivons pas à partager, même dans les lieux les plus intimes. Et ma prière pour vous, pour moi aussi, c'est que nous pouvons trouver des personnes de confiance, de prière autour de nous. Une personne ou deux. Ce matin, j'avais envie de changer un peu l'ordre du culte. Pas parce que je ne voulais pas vous entendre prier au début, avant la prédication, mais parce que je voulais avoir l'occasion de se retrouver en petit groupe, des 4 ou 5, les uns avec les autres, aujourd'hui, maintenant, pour prier les uns pour les autres. Pour mettre un peu ce que j'ai partagé en pratique. Nous prions ensemble tous les dimanches, et ce matin ne sera pas forcément différent. Mais donc je nous invite à se retrouver en petit groupe, mais avant de le faire, j'aimerais vous inviter à prier, en particulier pour ceux dans nos groupes qui n'arrivent plus à prier Dieu. Pas de manière condescendante, t'arrives pas, mais avec amour. Je t'invite aussi à prier pour que notre assemblée puisse être un lieu où nous arrivons à accueillir n'importe quel sujet de prière avec amour et délicatesse. Et finalement, je nous invite à prier pour les sujets partagés dans la confiance au sein de ces petits groupes. Lorsque nous prions, lorsque nous prenons ce petit temps de prière, rappelons-nous juste que tout le monde ne veut pas forcément qu'on prie pour lui. Et on ne va pas commencer à imposer les mains sur les gens les uns les autres si la personne en face n'est pas d'accord. Soyons délicats dans nos prières et notre manière de prier. Et peut-être c'est votre première fois dans cette église, et si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Surtout, n'hésitez pas à rejoindre un petit groupe. Mais si vous ne voulez pas, n'hésitez pas à ne pas le rejoindre. Moi, je vais être derrière. Et si vous voulez venir me parler, ça fait plaisir. On peut prier ensemble. Je ne vous oblige pas. Mais prenons ce temps de 5 à 10 minutes maintenant à se retrouver en petit groupe avec les uns les autres autour de vous. Ça vous implique à bouger. Hein? Donc, je vous attends. Hein?